Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Gmoun.
Chienne Berry. Sigi Kafomba.
La désignation des membres de l'AIGE, entendez par là, autorité indépendante de gestion des élections, se précise peu à peu. Les candidats des partis politiques et de la société civile devant siéger au sein de l'organisation sont connus. Le 22 août dernier, 8 personnes ont été tirées au sort au niveau des formations politiques et 6 au niveau de la société civile. Mais ce mode de désignation des membres de l'AIGE a été boycotté et dénoncé par plusieurs formations politiques. Pour en parler, nous avons avec nous Mme Samake Fatoumata Traoré du parti ADPM, Alliance démocratique du peuple malien, Alhassane Abba du parti CODEM, Fousseni Diop de Modèle Mali, la mission d'observation des élections au Mali. Je suis Mariam Meiga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce reportage de Moussa Malé Sissoko sur les travaux qui se sont déroulés au CICB sur la désignation des membres de l'AIGE.
Sur une liste de candidatures de 75 femmes issues des partis politiques, 4 ont été retenues. Le même nombre aussi a été tiré au sort au niveau des hommes provenant des partis politiques. Ces 4 femmes viennent de l'Alliance malienne pour le travail AMAT, la Convergence pour l'émergence du Mali face au Diotons, le Rassemblement malien pour le travail et la synergie des initiatives pour la renaissance africaine. Les hommes, quant à eux, proviennent des 4 formations politiques. Il s'agit de l'Alliance pour la promotion et le développement du Mali APDM, la Force citoyenne et démocratique FCD, du Front uni pour la démocratie et le changement FIDEC et Initiative pour la refondation du Mali IRMA. Parmi ces 8 heureux gagnants, le ministère de l'administration territoriale devra désigner 4 personnes pour représenter la classe politique. Au niveau de la société civile, 6 personnes ont été retenues au terme du tirage au sort. Ces candidats sont issus du collectif des régions non opérationnelles, l'Ordre des notaires et le RECOTRAD. D'autres viennent du Conseil national de la société civile, la Forçat civile et le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie SEMDID. Le gouvernement devra en choisir 3. Ce tirage au sort intervient après des divergences au sein des partis politiques et des organisations de la société civile sur le mode de désignation de leurs représentants à l'AIGE.
Madame Samake Fatoumata Traoré, la première question sera à vous. Quel regard avez-vous sur ce mode de désignation?
Bon, j'ai un regard positif. J'ai dit d'abord bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs également. Donc, je dirais que j'ai un regard positif sur ce mode de désignation dans la mesure où un consensus n'a pas pu être trouvé lors des réunions de concertation avec les cadres de dialogue des partis politiques. Donc, je dirais que c'était quand même un mode de désignation qui est unique en quelque sorte au Mali parce que c'est la première fois qu'on assiste à un tel mode de désignation pour une institution aussi importante que l'AIGE, donc Autorité indépendante de gestion des élections. Et une autre chose également, c'est que voilà, je pense que s'il y a des partis politiques qui ont quand même accepté de venir, c'est-à-dire d'accepter de poser leur candidature par rapport à la désignation des membres, donc il va falloir quand même arriver à quelque chose dont justement cette question de désignation à travers un tirage au sort.
Alassane Abba, vous venez d'entendre Mme Samake Fatoumata du parti ADPM. Elle vient de dire que c'est un mode de désignation unique, une première dans le pays. Quel est votre regard sur ça?
Merci bien, Mariam, pour cette occasion que vous nous offrez d'opiner sur une question aussi importante, celle de la désignation des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections. J'avoue qu'il ne faut pas vous être surprise, hein. C'est selon. Selon qu'on soit grand parti ou petit parti, on va opter pour l'un ou l'autre. Maintenant, notre surprise, c'est que l'administration territoriale, le pouvoir qui est chargé d'arbitrer et de faire une observation, une vraie analyse de la situation, c'est vraiment laisser drainé dans une méthode antidémocratique qui n'est pas du tout ça Elle-même, elle dit que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, c'est pas seulement au Mali, dans le monde entier. On ne va pas procéder à un tirage au sort pour une question aussi importante que la désignation de ceux qui sont chargés de gérer les élections. La gestion des élections, c'est la première pierre, la plus importante, j'allais dire, la pierre angulaire de l'avenir politique de ce pays. Parce que n'oubliez pas que la contestation, le pouvoir dernier est tombé suite à une contestation électorale. Je crains que cette fois-ci, par cette méthode, la contestation, au lieu d'être post-électorale, ne soit une contestation préélectorale. Ce n'est pas sérieux. Je m'attendais à tout, sauf une désignation quand même par un jeu de hasard, parce qu'on ne gère pas un État dans le hasard. Un État, c'est la prise des responsabilités, c'est s'assumer. Je m'attendais à ce que le pouvoir fasse la même chose quand il s'est agi de nous doter d'un Premier ministre. Nous avions bien plus de 275 partis politiques, mais le pouvoir, sachant qu'en ramenant la question au niveau des partis politiques, risquera de buter sur une fin de non-recevoir, une mésentente chronique, a pris la décision d'écarter tout le monde et dit bon, voilà, M5, vous avez été au devant du combat. Choisissez-nous quelqu'un, nous lui faisons confiance. Nous nous attendons, nous ne partons pas de rien. Nous sommes des partis politiques qui ont existé pendant 30 ans. Pendant 30 ans, on a eu tout le temps de savoir qui est qui. Tous ceux qui veulent gouverner ce pays, diriger ce pays, se sont présentés. On a des conseillers municipaux. Quand nous avions été rencontrés par le ministre, nous lui avons dit de prendre le fait majoritaire.
Ministre de l'administration territoriale.
De l'administration territoriale. Les rapports des forces d'un parti politique, c'est les rapports des forces. On n'est pas les mêmes. Effectivement, madame, regardez bien ce qui s'est passé. Nous avons, au sortir des dernières élections, nous avons 22 partis politiques au Mali qui ont eu 94,60% de l'électorat, c'est-à-dire 94,60% des conseillers municipaux. Ces 22 partis politiques, pas un seul d'entre eux n'est retenu par le tirage au sort. Nous avons 40 partis politiques qui ont eu 417 conseillers municipaux au total. C'est parmi ceux-ci, malheureusement, que deux partis politiques ont eu la chance d'être tirés parce que c'est des petites formations politiques. Le surnombre étant là, c'est la probabilité pour qu'ils soient tirés est très forte. Maintenant, nous avons 211 partis politiques qui n'ont pas eu un seul conseiller municipal. Malheureusement, c'est parmi ces 211 qu'on a pu tirer les autres membres, des 6 membres restants ont été tirés parmi ces gens-là, qui n'ont pas un conseiller municipal. Nous avons des hommes inconnus, que personne ne connaît, des partis inconnus, que personne ne connaît, qui vont gérer l'élection. Nous avons tout comme l'impression que le pouvoir veut mettre une main basse sur la gestion des élections, quelque chose que nous avions vu ramper et venir à petits pas et nous avions sonné la sonnette d'alarme, c'est la cloche. Je crois que c'est une ruse qui est passée parce qu'elle ne prend personne. Nous sommes politiques, nous avons créé des partis politiques. La seule chose qu'on nous a laissée aujourd'hui, c'est être présent, regarder comment l'élection est en train de se dérouler.
Alors, le temps de faire réagir Fousseyni Diop sur la question, vous venez d'entendre Alassane Abba, c'est un jeu de hasard, c'est une première que ça se fasse selon madame. Est-ce que ce mode de désignation, sachant que l'EJE, c'est l'organe censé arbitrer les futures élections, ne porte pas un coup à la crédibilité même de l'organisation?
Je pense que c'est là de notre présence. Maintenant, venons-en au fait. Madame a parlé du fait que ça soit unique, mais pour moi, est-ce que le processus a d'abord une base juridique? Je pense que la question doit être posée d'abord. Parce que le ministère de l'administration territoriale est censé être aussi l'organe qui respecte d'abord la loi électorale. La loi électorale qui a été votée très récemment dans son article 7, je pense, parle du collège par rapport à la répartition des membres. Et aussi, dans cet article-là, on parle des membres représentant les partis politiques et la société civile sont désignés selon les modalités fixées par les institutions ou organisations. Donc, déjà, je pense que ce mode de désignation viole l'article 7 de la loi électorale. Donc cela montre à suffisance déjà que nous sommes en violation de cette loi-là. Maintenant, ce mode-là, comme il l'a dit, moi-même j'ai entendu certains partis politiques, je ne les connaissais même pas. Parce qu'il faut le reconnaître, on parle de 200 et quel parti politique au Mali, mais à vrai dire, ceux qui remplissent les critères d'un parti politique, la majorité a boycotté et qu'on appelle ce processus-là. Et là, c'est très grave. Des partis comme l'ADEMA, comme CODEM, comme YELEMA, qui, en matière de présence, c'est-à-dire en matière de conseillers municipaux ou encore de conseillers au niveau des collectivités, cercles ou encore de la région, ont quand même une base politique. Et aujourd'hui, dire que ces partis politiques ne font pas partie et que cet organe est censé être l'élément central par rapport à l'organisation des élections, je pense que ça pose problème. Mais pour moi, le fait le plus marquant, c'est d'abord montrer que ce mode de désignation quand même viole la loi électorale. Et je pense que dans nos communiqués aussi, on a eu à rappeler cela, mais il est dommage que cela n'a pas pu être respecté.
Madame, vous voulez entendre Abba et puis Fousseni Diop qui donnaient leur avis sur ce mode de désignation. Mais est-ce que les personnes, déjà bien vrai que selon Abba, certains partis politiques n'ont même pas de représentativité, mais selon vous, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de représentativité au sein des régions peut entacher à ce que ces personnes soient membres de l'EJ aujourd'hui?
Bon, moi je pense que c'est pas ce qui devrait normalement être le critère essentiel, parce que à mon avis, la première problématique qui s'est posée et qui a fait que j'ai donné cette réponse par rapport à mon regard positif, c'est justement lié au fait qu'il n'y a pas eu de consensus et qu'il y a des partis qui ont boycotté. Et ces partis qui ont boycotté ne peuvent justement pas avoir les représentants lors du tirage au sort, parce que justement on a décidé que le mode de désignation serait le tirage au sort. Donc ces partis qui n'ont pas été retenus dans la liste restreinte des 75 partis sur les 273. Donc, ça fait que leur nom ne pouvait pas figurer lors des tirages au sort. Donc, ça, c'est déjà un fait. Donc, je dirais, on n'analysera pas pourquoi et pourquoi pas. Il vient d'expliquer pourquoi ils ne sont pas venus, justement, à l'EJ. Nous-mêmes, nous avons voté contre, cette loi électorale, parce que justement nous avons trouvé qu'il devait y avoir une base juridique à la création de l'EJ, parce que nous pensons que c'est la Constitution qui devrait annoncer. La Constitution en vigueur aujourd'hui, c'est vraiment une Constitution de 92 qui ne parle que de la CENI et pas de l'EJ. Donc nous pensons que c'est pas une loi électorale qui doit en tout cas parler des modalités de gestion d'une institution comme l'EJ, parce que nous pensons également que l'EJ devrait être érigé en institution. Et par rapport au mode de désignation, nous y sommes allés parce que nous pensons que nous ne voulons pas boycotter, disons, ce processus-là, parce que nous pensons que ça vaut la peine d'y aller. Mais en votant contre cette loi électorale, nous avons nos raisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une base juridique qui vient quand même confirmer cette création, mais il y a également toute la question liée à la crédibilité et aux modalités de désignation des membres, parce que nous pensons que les membres devraient être désignés par voie de concours, c'est-à-dire que sur le critère de probité et de... Voilà, il y a un ensemble de critères qui sont quand même définis par la loi. Donc, je rejoins... certains sur ce plateau par rapport au fait que ça pourrait éventuellement entacher la crédibilité de l'organisation. Mais nous pensons également que nous devrions en quelque sorte trouver les voies et moyens pour justement arriver à mettre une organisation qui va quand même remplacer et la Cour constitutionnelle et l'organe de gestion des élections, et même peut-être pas l'administration territoriale, mais en ce qui concerne justement la relation avec l'administration territoriale, donc elle devrait être indépendante. Et cette indépendance-là, justement, beaucoup de personnes pensent que si c'est l'État qui continue à financer une organisation comme l'EJ, ça pourrait porter préjudice à son indépendance. Et vu que les conditions de désignation, telles que par exemple le fait que 3 personnes devraient émaner du président de la République, donc une personne du PM, et voilà, donc société civile, justement aussi les partis politiques, nous pensons que pour garantir cette indépendance, les partis politiques et la société civile ne devraient même pas être membres de l'EJ en quelque sorte. C'est ce que nous pensons.
Alors, en venant à la désignation des membres. Est-ce que des membres tirés au sort comme ça, on risque pas d'avoir des personnes qui n'ont pas assez de bagages pour siéger au niveau de l'EJ?
Oui, cela est une probabilité, mais une probabilité voulue par ceux qui n'ont pas voulu venir, Ça, c'est un aussi. Et l'autre probabilité, c'est le fait que par tirage au sort, je ne sais pas sur quels critères, par exemple, on a choisi les cinq, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une hiérarchisation des candidatures, donc par ordre de comment on va dire, de compétences, de rigueur, de sens des responsabilités tel que nous le voulons aujourd'hui pour un nouveau Mali. Donc je pense que le problème peut être créé à ce niveau-là. Mais si on parle de mode de désignation, du moment qu'on n'arrive pas à trouver un consensus, on est obligé d'avancer. C'est ça, parce que justement, on ne peut pas indéfiniment continuer à faire des concertations en sachant bien qu'il n'y aura pas de consensus. Moi, ça m'étonnerait fort que même si on aurait fait peut-être même 10 réunions ou 10 des sollicitations auprès de ces partis-là, moi, j'avais quand même des doutes qu'il y aurait un consensus pour dire voilà les 4 personnes que nous allons choisir pour les partis politiques et voilà les trois personnes qui sont quand même les plus représentatives par rapport à la société civile.
Fousseni Diop, est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui des blocages dans la suite du processus avec ces contestations qu'on voit avec certains partis politiques?
Je pense que le risque est d'autant plus grand que, en fait, vous savez, les élections sont aussi une histoire aussi de politique et d'abord aussi de partis politiques. Quand les organes sont mis en place, les gens qui doivent concourir pour pouvoir prétendre à exercer le pouvoir n'ont pas confiance aux organes mis en place pour gérer les élections. Je pense qu'il y a un problème. La CENI, qui était dans l'ancienne loi, qui était là pour superviser le processus, les partis politiques y siégeaient. La société civile était présente. L'État aussi, à travers ses représentants, y siégeait. Mais il n'y avait pas de problème. Mais déjà, c'est comme si, avant le jeu, les règles mises en place, les acteurs qui concourent à ces jeux ne sont pas d'accord. Donc, on ne peut pas prétendre à ce que déjà que le match ait lieu, ou encore que les résultats qui vont sortir vont être à la satisfaction de tout le monde. Donc, je pense qu'il y a ce risque-là. Voilà pourquoi, je pense, on parle de non-consensus, mais je pense, je parle sous le contrôle des uns et des autres, la société civile avait quand même envoyé quand même des membres. Je pense s'il y avait des critères préétablis qui étaient mis en place d'office, certains allaient être éliminés. Par exemple, la société civile, on en a plein. Il y a beaucoup de fêtières qui regrochent cette question de société civile. Mais dès le moment qu'on reconnaît déjà dans la société civile les organisations qui militent dans le cadre des élections, qui ont des compétences avérées, donc on sait déjà à qui on doit faire appel par rapport à telle ou telle compétence pour pouvoir siéger. Mais aujourd'hui, on tire, c'est un jeu de hasard, on met tout le monde dans un fourre-tout et on tire. Mais pour quel résultat? Aujourd'hui, des partis politiques qui n'existent même pas sur le terrain se retrouvent dans l'aige, mais avec quelles compétences ils vont parler, pour quelle voix, et pour que davantage, quand le jeu va être fait, ils ne seront pas représentatifs et que des résultats qui vont sortir vont être acceptés. Je pense que le jeu est assez biaisé et on est en train de prendre un parcours qu'il faut faire énormément attention et je pense que c'est très urgent à trouver des solutions rapidement à désamorcer cette situation.
Le jeu est biaisé, selon Fousseni Diop, mais des partis comme la CODEM ont refusé de participer à ce mode de désignation. Selon vous, y avait-il une autre façon de faire?
Bon, il aurait dû y avoir une autre façon de faire parce que...
Laquelle?
On a toujours mis en place ici l'organe qui a géré les élections. Il n'y a jamais eu de refus de participation parce que les gens qui ont voté la loi ont regardé tous les contours, ont fait en sorte que tout le monde se sente vraiment dans la loi. Nous avons une loi aujourd'hui qui met tout le monde sur le même pied d'égalité, qui dit, bon, parti politique, même si vous êtes 3000 partis politiques, venez, nous allons faire un tirage au sort, sachant très bien que certains partis ne sont là que parce qu'ils ont des récipicés. C'est ça, c'est cette fuite de responsabilité que nous condamnons et que nous fustigeons de la part de notre administration. Notre pouvoir, nos pouvoirs qui sont là, connaissent tous les partis politiques et leurs objectifs. Pour nous, le but qu'ils doivent viser, c'est réussir les élections. On ne réussit pas les élections en laissant certains au bord de la route et des gens très importants au bord de la route. Bien sûr, ce qui a été fait, la loi, là, ça a été inventé. La procédure a été sérieusement, scientifiquement inventée, sachant qu'en disant à tout le monde de venir, tous ceux qui veulent, qui tiennent à la démocratie, vont s'abstenir. Nous allons nous abstenir tant que c'est par tirage au sort qu'on veut gérer le Mali. Pourquoi on n'a pas fait un tirage l'autre jour quand on voulait désigner les membres du CNT? Pourquoi on a dit, bon, tous les Maliens qui veulent être au CNT, amenez vos dossiers, nous allons tirer au sort? Pourquoi quand on a dit qu'on va former un gouvernement, on n'a pas dit, bon, tous ceux qui veulent devenir ministres, venez, on va faire un tirage au sort? Pourquoi demain, quand il y a président de la République, on ne dit pas, venez, on va tirer un président au sort et nous abstenir des élections? Je crois qu'il faut être sérieux. Hein. Soyons très sérieux et ne prenons pas les gens pour des imbéciles parce qu'on est au pouvoir. Nous avons à charge de gérer ce pays. Ce pays, il faut le gérer les yeux dans les yeux en se disant que tout ce qui n'est pas permis, tout ce qu'on a condamné avant, il ne faudrait pas qu'on dirige un système. Dans un, je vous ai expliqué qu'il y a 213 partis politiques qui n'ont pas un seul conseiller municipal. Quand dans une boîte, ces 213 partis politiques sont lancés, il y a 22 partis politiques, les plus majeurs sont là, mais la probabilité pour que ces gens ne soient pas tirés est zéro. Ça, c'est mathématiquement, moi, je ne suis pas un mathématicien. Mais quand vous fourrez tous ces mois là-dedans, plus 22 petits partis politiques, ben, la probabilité pour qu'ils soient tirés est nulle. Voilà pourquoi on a dit non, on n'aurait pas dû en arriver à là. Parce que le rapport de force est connu. La dernière fois, quand on a mis la CNE, voilà pourquoi on a dit de mettre l'EJ de côté, c'est dangereux. On a dit d'aller avec l'organe existant, c'est-à-dire la CENI, l'administration territoriale et la DGE. Parce que la CENI prenait en compte la majorité et l'opposition. Et l'opposition, c'était une frange très importante de la population.
Est-ce qu'actuellement, on a une majorité, une opposition?
On a une majorité. On ne veut pas dire que c'est une majorité, mais dans la façon dont les choses sont en train de passer, on est obligé de dire qu'il y a une majorité. Et parce que nous, ils nous ont déjà mis à l'opposition. Même quand bien même on a toujours dit que nous ne sommes pas de l'opposition, quand les gens parlent...
Vous, c'est la CODEM. Vous êtes dans le...
CODEM et tous ceux qui refusent le fait accompli. Tous ceux qui veulent d'une vraie démocratie, tous ceux qui disent qu'attention, il faut beaucoup faire attention. Il faut une démocratie, il faut aller par des procédures démocratiques.
Alassane Abba, est-ce que ce n'est pas le fait que nous sommes dans une période de transition, qu'il n'y a pas de majorité ni d'opposition qui a amené ce mode de désignation?
Non, non, non. Dans la loi électorale, qu'est-ce qui empêchait aux gens, sachant que nous sommes 200 partis aux politiques, qu'est-ce qui empêche aux gens de dire, c'est vrai, ils ont dit que les partis politiques désignent les représentants, mais... Puisqu'ils savent que nous sommes nombreux, qu'est-ce qui leur empêche de donner une précision pour dire « Ah, ce choix se fera en tenant compte des rapports de force des partis politiques ?» Ça clarifie la situation. Mais on a laissé cette nébuleuse parce que cette situation arrange. Parce que tout le temps où on veut faire savoir que la majorité du peuple est là, c'est cette masse inaudible, cette masse qui n'existe pas véritablement, qu'on amène pour tambouriner et faire du bruit et dire que le peuple. Il faut beaucoup voir, prendre cette histoire du peuple-là avec des pincettes. Je crains que quelque part, on ne pousse les gens à dire, bon voilà, faites les choses, nous allons organiser les élections et nous allons faire passer qui on veut. Et là, ce ne serait pas, ils auraient eux-mêmes sémé le germe de la contestation. Parce qu'aujourd'hui, il a fait allusion aux 8 membres choisis par les pouvoirs publics. Les 8 membres choisis par les pouvoirs publics, pourquoi? À quelle fin? Depuis qu'on a commencé à organiser les élections, depuis quand vous avez vu les pouvoirs politiques qui organisent les élections eux-mêmes s'accaparer et de la CENI, ça sent très bien que le pouvoir de recours revient à la Cour constitutionnelle qu'eux-mêmes ils désignent. Vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez la CENI, et ils vont désigner maintenant les 15 membres de la CENI par cette procédure. Parce que les 4 membres des partis politiques seront des gens qui vont choisir eux-mêmes, suivant, une procédure dont ils vont convenir entre eux. Parce que ce n'est pas terminé, hein. Ils sont 8. Ils vont choisir 4.
Effectivement.
Et les 4, le dernier choix là.
Cela m'amène à poser cette question à Fousseni Diop. Quels sont les contours de l'EJ, c'est-à-dire la composition, le nombre de membres, le délai et la mission de cette organisation?
Non, je pense que par rapport à cela, je l'avais dit à l'entente, l'article 7 parle évidemment de ça. On parle de 15 membres. Les 8 sont désignés par les pouvoirs publics, je pense 4 pour les partis politiques et 3 pour la société civile. Et par rapport à cette composition, il a parlé de ce déséquilibre-là, notamment du fait que c'est 8. Je me pose aussi la question, est-ce que les 8 aussi du pouvoir public aussi seront tirés par au sort. Donc la question aussi mérite d'être posée. Ou bien eux, ils sont carrément légitimes pour pouvoir à trouver les modalités pour pouvoir désigner les 8. Je pense que au fait,
et le délai du mandat, le mandat.
Je pense que c'est 7 ans. Pour les mandats non renouvelables, bien sûr, c'est 7 ans. Maintenant, le temps. Normalement même, nous sommes en retard déjà sur le chronogramme, il faut le dire, parce que normalement, dans le chronogramme...
Effectivement, c'était prévu le 25 juillet dernier.
Et aujourd'hui, nous sommes en fin août, presque, l'EJ n'est pas encore mis en place. Et je vous rappelle juste que les élections prochaines, c'est les élections référendaires, et c'est prévu pour mars 2023. Et les composantes au niveau décentralisé de l'EJ doivent être mises en place 6 mois avant les élections.
Donc ce retard pris pourrait-il avoir des répercussions sur la durée de la transition ?
Exactement, ça va avoir un impact très négatif parce que les premières élections qui vont se faire sont les élections référendaires. Et tout le monde sait que si la constitution, une nouvelle constitution est adoptée, bien sûr, ça peut avoir une répercussion même sur la loi électorale. Et si cette élection n'arrive pas à se faire, c'est-à-dire qu'on va encore bousculer le chronogramme. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que nous pourrons tenir toutes les élections et que nous serons dans le délai de pouvoir terminer cette transition avec des élections présidentielles? Je pense que la question mérite d'être posée. Aujourd'hui, au rythme où nous partons, il y a vraiment des interrogations à ce niveau. Et personne n'est aujourd'hui en mesure de dire que ce chronogramme-là sera respecté.
Madame Samake Fatoumata, la mise en place de cet organe changerait quoi dans l'organisation des futures échéances?
Moi, je pense
est-ce que le cadre actuel, vu qu'il y a des protestations actuellement, le cadre existant n'est pas mieux avec la DG, la CENI?
Bon, je pense que le cadre existant, justement, a été également désavoué et par les partis politiques et par même la population. Et même par les gouvernants. Donc je pense que la décision de création de l'EJ aussi vient d'un malaise qui est connu depuis plus d'une décennie, vu la gestion des élections passées. Donc on a vu, il n'y a jamais eu une élection où il n'y a pas de contestation. On a comme l'impression que à chaque fois que le camp qui n'a pas pu briguer un poste de responsabilité se porte toujours opposant, c'est-à-dire que conteste les élections. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer c'est-à-dire la question d'élections dans notre pays. Donc, avoir un organe unique de gestion des élections, je pense que c'est vraiment après une mûre réflexion de toutes les parties prenantes. Mais peut-être que, comme nous sommes en période de transition, il y a certainement beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte parce qu'aujourd'hui, on n'a ni opposition, on n'a ni majorité. Parce que justement, je pense qu'il ne devrait pas y en avoir. Aujourd'hui, le Mali a décidé d'emprunter une autre voie. Bon, les points de vue sont divergents sur cette question. Mais nous, au sein de notre parti, ce que nous pensons que l'EJ ne devrait pas être créé avant qu'il y ait une nouvelle constitution. Ça, c'était pour nous vraiment la base juridique pour qu'on crée l'EJ. Une fois que la constitution aurait décidé qu'on va créer un organe unique de gestion, les conditions pour créer cet organe unique seront définies justement dans les textes et nous pensons que cela aurait eu un impact plus grand pour les futures élections, dans la mesure où si nous devons choisir les membres selon les critères qui sont évoqués par rapport à leur moralité, par rapport à leur compétence, nous ne pouvons avoir ça qu'en essayant vraiment d'avoir des personnes, non pas choisir quelqu'un parce que la personne vient d'un parti politique, mais on doit choisir la personne parce que la personne a une compétence. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que si on doit choisir ces personnes-là, ces personnes devraient être indépendantes de toute organisation, de toute structure, c'est-à-dire ne pas avoir une appartenance quelconque. Sinon, ben, ça va être comme la CENI que nous avions. Et ce que nous avons dénoncé chez la CENI, c'est ce qui allait se faire aussi avec l'EJ, parce que justement, nous n'avons pas pris les précautions nécessaires pour avoir une certaine neutralité. Et dans ces conditions également, ce n'est pas l'État qui doit, c'est-à-dire dire qu'un ministre, disons, le premier ministre ou le président devrait choisir des personnes. Non, ces choix se feront sur quelle base ? Quand on parle de probité, de moralité ou autre, une fois que c'est de la nomination, ça devient difficile de faire une analyse objective sur cette personne-là. Donc, nous pensons que la question du choix des hommes est primordiale. La question de leur impartialité ne pourra être réelle que si nous décidons nous-mêmes de laisser les choses se faire telles que nous l'avons voulu, c'est-à-dire avoir un organe unique de gestion des élections qui soit une autorité indépendante. On parle bien d'autorité indépendante. On ne peut pas devenir une autorité
indépendante. Mais est-ce qu'on peut avoir une autorité indépendante, je vous prends moi, avec ce style de jeu de hasard?
Non, c'est-à-dire le jeu de hasard est intervenu dans un autre contexte, dans un contexte dans lequel, par exemple, nous avons cette question de consensus qu'on cherche toujours à faire revenir sur la table. C'est-à-dire que, par exemple, la question d'appartenance du chef de gouvernement à un parti politique a fait couler beaucoup d'encre. Et voilà, on pense que cela entache en quelque sorte, de l'impartialité qu'on veut. Donc, je vois tout simplement dans ce processus que la question de l'ège revient justement parce que nous n'arrivons pas à trouver de tirage au sort intervient parce que cette recherche de consensus qui est voulue par une partie du peuple, en allant sans trouver un consensus aussi, on a un problème. Donc on est obligé d'aller vers des concertations. Et en allant vers ces concertations-là, on est obligé aussi de prendre une décision. Vous venez de le dire, il y a eu un retard par rapport au calendrier électoral, même avec les concertations qui ont été menées, disons, en amont. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il faut forcément poser des actes qui peuvent nous permettre d'aller vers des élections. Et si on ne trouve pas de consensus, on ne pourra et qu'on n'arrive pas à mettre en place les structures ou en tout cas les organes que nous voulons, nous ne pouvons pas avancer parce que chaque étape est importante pour aller de l'avant. Donc moi, je pense que c'est vraiment cette question de recherche de consensus et du fait qu'on n'a pas pu trouver un consensus, on n'en trouvera jamais, à mon humble avis. En tout cas, avec 273 partis politiques au Mali, je conviens que, en quelque sorte, les partis
mais est-ce qu'il n'y avait pas lieu d'écouter, par exemple, les avis qui s'accordaient?
Les partis ne devraient pas penser au fait que nous sommes un grand parti, nous sommes un petit parti. Moi, je pense qu'on ne doit pas voir les choses comme ça. En tout cas, pas par rapport à l'ÈJE. Parce que par rapport à l'ÈJE, on a besoin justement des personnes compétentes, des personnes qui sont de bonne moralité. Alors, vous n'allez pas me dire que par rapport d'appartenance à un parti politique garantit toutes ces compétences ou toutes ces connaissances, toutes ces valeurs dont nous parlons. Donc,
Monsieur Abba, vous aurez la parole. Laissez-la défendre ses idées. Elle a le droit.
Voilà,
ce sont ses idées.
Voilà.
Alors,
c'est mon point de vue.
Vous venez d'entendre son point de vue. Outre la désignation des membres que vous contestez au niveau de la CODEM, la mise en place de cet organe changerait quoi? La même question.
Madame, je suis d'accord avec elle sur un seul point. Tout ce qu'elle a dit là, il n'y a qu'un seul point où là, je suis vraiment d'accord avec elle, c'est que la mise en place de l'organe unique devrait attendre carrément que la Constitution soit votée parce que ça risque de jouer sur le processus électoral. Et là, nous, on l'a dit. On a dit à l'administration territoriale, on a dit à quoi sert mettre en place aujourd'hui l'ÈJE, sachant très bien que la commission loi de l'Assemblée nationale est en train de tourner, disséminer la loi électorale et ils nous ont dit qu'il y aura une relecture de la loi électorale pour l'adapter non seulement à la Constitution et l'adapter aussi aux critères, aux critiques qui seront formulées ça et là par les différents membres de la société civile et des partis politiques. Okay. Donc nous, pour nous, il n'était même pas question de mettre en place l'ÈJE aujourd'hui. Donc la mise en place de l'ÈJE aujourd'hui, pour moi, ça aurait dû attendre. Mais puisqu'on l'a mis en place, malgré les mises en garde, malgré l'espoir que nous avons eu, on a dit que peut-être il y a un autre agenda qui est caché. Voilà ce à quoi nous avons abouti par ricochet. Et dire que les partis politiques doivent avoir les mêmes aspirations, les partis politiques ne peuvent pas avoir les mêmes aspirations. Là, je concerne les partis politiques. Ça a été créé pour qu'il n'ait rien à dire par rapport à la fiabilité de l'élection. C'est les partis politiques qui ont demandé ça depuis le début. Hein. Même pas là, depuis la première création de la CENI, c'est parti d'une demande des partis politiques. et bien sûr les partis qui étaient prêts à aller aux élections. Ce n'est pas les partis qui détiennent des récipicés et qui savent qu'ils n'iront pas aux élections. Ça concerne les partis qui savent que demain, eux, ils iront aux élections. Ils ont envie de voir comment l'élection se fait. Ils ne feront aucun marchandage, aucun compromis, aucune compromission. Ce n'est pas la même chose qu'un parti politique qui ne cherche que les petites dividendes ou bien les petites pécules qu'il va tirer de la création de son parti et sa participation à l'Aige. Un parti qui aspire à conquérir le pouvoir, à aller au feu pour conquérir le pouvoir, ne fera pas ces marchandises. Voilà pourquoi nous avions dit, puisque les grands partis sont exclus, peut-être que ça ne vise qu'à avoir un organe, une autorité de gestion complètement acquise à l'autorité qui est là, qui va organiser les élections, qui peut-être a son agenda. Qui sait ? C'est vrai, la charte de la transition dit que le président de la transition ne doit pas se présenter, mais j'avoue que quand on lit aussi quelque part, après la relecture, qu'après démission, le président est élu de se présenter, il y a lieu de se poser des interrogations. Nous risquerons d'avoir une autorité de gestion des élections entièrement contrôlée par les pouvoirs, comme je l'ai dit, et ensuite une cour constitutionnelle contrôlée par les pouvoirs. Il faut dire, madame, que vous faites souvent des confusions et vous accusez à tort la CENI. La CENI n'a jamais été à la source des problèmes qu'a connu le Mali parce que la CENI ne retranche pas, elle n'augmente pas. La CENI supervise et remet les résultats en l'état tel qu'elle les a reçus à la Cour constitutionnelle. Ceux qui retranchent, qui font des ajustements, des réajustements, qui annulent selon l'ordre qu'ils reçoivent d'X ou Y, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui a toujours fait irruption, injonction dans le processus pour faire passer des gens qui n'ont pas passé et faire recaler des gens qui auraient dû passer. C'est pourquoi on a dit qu'on n'était pas d'accord que les deux institutions soient entre les mains du même individu, celui qui désigne le tout, et la Cour constitutionnelle, il y a un danger. Nous n'avons pas confiance à ce qui est en train de se passer. Et supposons demain qu'on mette encore un militaire à la tête de l'Aige. Parce que c'est possible, hein, madame. Si un militaire est demain à la tête de l'Aige, on a un premier ministre déjà qui est militaire. Un président de la République militaire. Un président du CNT militaire. Mais vous allez nous empêcher de dire que nous, on n'est pas habitués à ça. Hey, y a trop de treillis dans le processus. Il faut diminuer. Nous n'avons pas confiance en ça. Hein. Sincèrement, à partir nous avions un petit espoir jusqu'au moment où il y a eu le processus qui consiste à jauger des hasards. On a dit alors là, vraiment, ils sont passés totalement à côté de la plaque. Ça, on ne peut pas nous manquer.
Al-Hassan Abba, vous allez garder la parole. Il nous reste à peu près moins de six minutes pour clore cette émission. Le temps de faire un dernier tour de table et ça va commencer avec vous. Le processus quand même a déjà été enclenché. Il reste simplement la seconde phase qui va désigner les 7 membres. Que faut-il faire aujourd'hui selon vous?
Vous savez, moi je ne dirais pas que c'est terminé. Je dirais qu'il faut qu'ils tirent les leçons de ce qui est en train de se passer, de ce qui risque de se passer et qui se ressaisissent. Parce que quand tu te rends compte que tu as une erreur, quand tu te rends compte que tu as pris une décision impopulaire, quand tu te rends compte que tu as pris une décision qui, au lieu de calmer, rajoute la tension à la tension aujourd'hui, je crois que le mieux, c'est de dire attention, je crois que ce choix, en tout cas, ne calmera pas le jeu. Et je risque de ne pas avoir l'inclusivité, le soutien que j'espère avoir, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin.
Le processus est enclenché. Est-ce qu'on peut
ceux qui sont chargés, qui ont à charge de conduire, de mener le processus jusqu'au bout, qu'ils comprennent simplement que pour nous, ils ont raté le coche. Pour nous, ils doivent se ressaisir. Pour nous, on ne fait pas le Mali avec ceux qui n'existent pas, on fait le Mali avec ceux qui véritablement existent et à vaincre Saint-Péril, on triomphe sans gloire. Écarter par malice, par ruse, tous ceux qui peuvent être de véritables candidats face face aux élections, dans les élections, et rencontrer des gens qui probablement ne constituent aucun danger. Je crois que c'est ce qu'on dit à vaincre, vaincre sans péril. Nous irons jusqu'au bout de notre logique, c'est-à-dire accompagner le processus jusqu'au bout de notre logique et n'en déplaise à certains, quand bien même ne sont pas d'accord. Et ce qui est en train de se passer ne nous inspire aucune confiance. Nous sommes sceptiques par rapport à la réussite vraiment de cet organe où les grands partis sont exclus, où on repêche des frétins pour leur dire « venez gérer des élections » dans un milieu qu'ils ignorent totalement certains d'entre eux, parce que la gestion des élections, ça s'est fait à la base. Ceux qui ont des militants à la base, ceux qui ont des gens qui leur apportent des informations par rapport à la façon dont l'élection va se passer, parce que la CENI, elle va là-bas occasionnellement, mais ceux qui sont véritablement là-bas, c'est les hommes politiques.
Merci beaucoup, Al-Hassan Abba. Madame Samake Fatoumata Traoré, selon vous, est-ce que l'EJ pourrait être concrétisé? Est-ce que les fondements sont bien là?
À mon avis, les fondements sont là. Mais en menant une réflexion beaucoup plus profonde, on se rend compte que l'EJ, quand même, était bébé mort-né. Parce que justement, on a une autorité qui est là, qui n'a pas de fondement juridique. Et nous, nous tenons beaucoup au fait que quand il faut d'abord une nouvelle constitution avant d'aller à la création de l'EJ, ça c'est un. Deuxièmement, revoir les conditions de désignation pour que l'autorité soit réellement une autorité indépendante. Mais ce que j'aimerais dire au passage, c'est que ce n'est pas parce qu'on est grand ou petit parti politique qu'on peut contribuer ou qu'on peut vraiment développer son pays. Parce que le point d'interrogation par rapport à tout ça, c'est où est-ce que nous allons en tant que pays? Où est-ce que nous allons? Et c'est justement, c'est des grands partis politiques qui ont dirigé ce pays pendant très longtemps et nous avons vu les résultats. Donc nous, on n'a pas de problème par rapport au fait que ce soit un militaire ou un civil. Nous avons un problème par rapport au type de personne, c'est-à-dire la moralité, l'engagement, le patriotisme de la personne qui dirigera le Mali de demain. C'est tout ce dont nous avons besoin, les compétences nécessaires, qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est tout.
Qu'on mette l'homme à la place qu'il faut, l'homme choisisse l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'y arrive. Est-ce que ce processus a bien débuté? Est-ce qu'on peut aller à des futures élections avec ce tège-là?
Je pense que voilà, les questions doivent être posées. Je ne pense pas qu'à ce rythme-là, on pourra arriver à cela. Maintenant, ce qu'il faut clarifier, déjà, qu'on appelle la gestion du pays, la gouvernance, ce n'est pas une question de militaire. Si les militaires, ils veulent vraiment diriger le pays, ils doivent laisser le tri et venir sur le jeu politique. Maintenant, par rapport aussi du fait qu'on parle de grands ou partis politiques, je pense que dans les 10 dernières décennies, ceux qui ont participé aux élections, qui ont de la représentativité, il faut les prendre en compte. Sur les 200 et quelques partis politiques qui sont au Mali, seulement 60 ont participé régulièrement aux élections et qui bénéficient de l'aide aux partis politiques. Aujourd'hui, les occulter du processus est une grande erreur. Et nous sommes en retard sur le chronogramme. La révision des listes électorales, normalement, avec cette loi électorale, elle est prévue pour octobre et l'EJ n'est pas encore mise en place alors qu'elle est censée gérer la supervision de ce processus-là. Quand sera-t-il? On ne le sait pas. Et les élections prochaines, c'est seulement pour mars. Et aujourd'hui, on n'a même pas encore l'organe unique de gestion des élections. Aujourd'hui, tout est flou, mais c'est aux autorités de prendre rapidement les mesures du possible pour rassembler encore davantage et faire un consensus autour de cette question pour pouvoir élucider et partir réellement aux élections.
C'est la fin donc de cette émission qui réfléchissait sur la contestation sur le mode de désignation des membres de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections. Nos invités sont unanimes quand même sur une question que la mise en place de cet organe devrait se faire après la transition. Grand merci à nos invités, Fousseni Diop de Model Mali, mission d'observation des élections au Mali, Madame Samake Fatoumata Traoré du parti ADPM, Alliance démocratique du peuple malien, Al-Hassan Abba du parti CODEM. À la régie son et vidéo, il y avait Mamadi Keita et Nouhoum Diré. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo du monde.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.